ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à vous et bienvenue dans cette émission de mai. J'ai beaucoup de chance en fait ce printemps parce que après avoir accueilli Thierry Cutel le mois dernier, j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Pierre de La Fontaine. Bonjour Pierre.
Bonjour Christine.
Voilà, pour une heure en sa compagnie, Pierre de La Fontaine qui écrit et qui a publié récemment. On en parlera davantage dans un moment. Mais pour le moment, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Pierre, parler de ton parcours et que les auditeurs apprennent ainsi à mieux te connaître.
D'accord. Alors, au départ, je peux dire que je suis un passionné de littérature. Donc, je lis beaucoup et ce, depuis toujours. Je crois que le point de départ le point de départ de cela, c'est l'école. Il y a donc fort longtemps.
L'école sert à quelque chose, alors, au moins.
Moi, j'ai envie de défendre cette idée.
Bien sûr.
Et donc, je suis un lecteur de littérature 20e, 19e. Voilà. Et je suis aussi un lecteur de poésie. Voilà. Là aussi, c'est à l'école qu'il y a fort longtemps donc, que j'ai découvert la poésie. Je suis vraiment un lecteur de poésie. Alors, je m'intéresse à la poésie contemporaine. J'aime bien sûr aussi les poètes du 19e, Baudelaire, Apollinaire, Rimbaud. Voilà, mais également à la poésie actuelle qui est très, très vivante. Mmh. Voilà ce que je peux dire. Je peux dire aussi que je suis musicien, enfin, je suis mélomane déjà. Hein, et là, je suis très ouvert. J'écoute de la musique classique, j'écoute de la chanson française, chanson à texte. J'écoute du jazz, musique du monde, voilà. Et je suis aussi instrumentiste parce que je joue du piano, modestement, mais enfin je joue du piano. Et déjà pour mon plaisir. Et voilà. Je peux jouer du classique et j'aime bien aussi jouer de la chanson française. Et donc, il y a quelques années, je me suis mis à écrire des chansons plutôt poétiques, parce que je précise aussi que j'aime beaucoup écrire. Donc, j'ai écrit des chansons avec un ami, donc Éric Simonet. Nous avons formé le duo, qui était parfois un trio, qui s'appelait Parenthèse, qui a duré une vingtaine d'années. Pas tout à fait, mais presque. Donc, Éric interprétait mes chansons. C'est moi. Donc, ce qui était en avant, c'était le texte. Mmh. Et il y avait un accompagnement au piano que j'assurais lorsque nous faisions des concerts. Et parfois, il y avait un accordéoniste qui joignait à nous, à savoir Frédéric Sonnery.
D'accord. Donc, c'était toi qui composais
voilà.
Les musiques.
Voilà. Donc, c'était vraiment au départ une démarche d'écriture. On peut dire qu'on emploie le mot chanson, mais c'était presque des poèmes mis en musique.
D'accord.
Voilà. Et donc, c'est Éric Simonet qui les interprétait. Et nous avons fait plusieurs concerts sur Bourg ou dans la région, on va dire, dans la région de Bourg. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était qu'il y avait à la fois une démarche d'écriture et à la fois l'aspect musique, quoi. Mm-hmm. Voilà. Donc, j'ai écrit un certain nombre de chansons que nous interprétions en concert. Alors autrement, j'ai également, parce que je m'intéresse à la photo, alors là je suis un photographe totalement amateur, mais j'ai quelques amis photographes. Et nous avons collaboré, notamment avec deux photographes, Dominique Le Pen et Jérôme Gors, pour réaliser des expositions qui associaient leurs photos et des textes poétiques que moi, j'avais écrit.
D'accord.
J'avais écrit des petits textes à partir des photos. Et nous avons réalisé plusieurs expositions, Bourg, Lyon, Dijon, ailleurs encore. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Et ça m'a également beaucoup, beaucoup intéressé. C'est une autre démarche, évidemment, que la chanson.
J'imagine que c'était des textes plus courts. Des textes,
oui, oui, c'était des textes. Alors, en général, c'était des petits poèmes. Mm-hmm. Parfois, il y avait quelques textes plus longs, tout de même, en prose poétique, on va dire. Là, l'écriture, c'est-à-dire, moi, j'avais des photos. Je ne savais pas forcément où elles avaient été faites et ce n'était pas le sujet. Et j'avais carte blanche. J'écrivais librement ce que j'avais envie d'écrire à partir des photos. Et on se rendait compte que une photo seule et une photo accompagnée d'un texte devenait quelque part une nouvelle œuvre. Mmh. Et c'est quelque chose que j'espère refaire un jour. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu.
Alors, si on en revient peut-être aux poètes qui, oui, t'ont plu, qui te plaisent toujours, oui, et qu'on va entendre à plusieurs reprises dans cette émission, ouais, je crois que le premier qu'on va entendre, peut-être celui que tu aimes au-delà de tous les autres, je ne sais pas, c'est Guy Levic.
Oui. Alors, Guy Levic, que j'ai découvert il y a fort longtemps, ce poète breton, hein. Guy Levic, c'est un poète que j'aime beaucoup. Et je sais que qui me l'a fait découvrir quand j'étais encore étudiant, c'est Gabriel Le Gall, poète de la région, hélas décédé.
Et, qui était ton professeur.
Qui a été mon professeur. Et j'ai eu tout de suite une espèce de coup de foudre pour la poésie de Guy Levic. Et j'ai beaucoup, beaucoup lu Guy Levic. Et mm-hmm, je continue de lire Guy Levic.
Voilà. Poésie très épurée, très,
oui, ouais, j'aime ce très côté, concise. Oui, j'aime ce côté épuré, oui, ça me plaît beaucoup. Il fait entendre beaucoup de choses avec peu de mots.
Oui.
On peut dire ça.
Oui, tout à fait. Donc, on va entendre un texte de Guy Levic, dit par Pierre.
Donc, un poème qui parle de la poésie. Chaque poème à sa dose d'ombre, de refus. Pourtant, le poème est tourné vers l'ouvert. Et sous l'ombre qui l'occupe, un soleil perce et rayonne. Un soleil qui règne.
Oh,
Eh bien, après ce madrigal de Carlo Gesualdo, c'est un musicien qui est un petit peu à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle. Et ce titre que vous venez d'entendre, qui s'appelle « O dolce mio tesoro », est extrait de son sixième livre de madrigaux. Bien, alors Pierre, on reprend, mais cette fois avec ton recueil, puisque nous allons vous lire aujourd'hui plusieurs extraits de ce recueil. Qui a été récemment publié. Alors, est-ce que tu peux nous introduire un petit peu, nous en dire deux mots ?
Voilà, donc, juste avant de parler du recueil, donc, je parlais d'écriture, et donc, j'ai écrit beaucoup de poèmes, et depuis quelques années, il y a deux revues qui me publient, donc, Lichen et Verso. Et par contre, ce livre-là, Dès lors l'immobile, c'est ma première publication. Donc, j'ai participé à un concours de poésie organisé par Cours-la-Ville, dans le Rhône, une association qui s'appelle l'Écritoire d'Estiogues. Et c'est la première fois que je participais à un concours. Et à ma grande surprise, c'est moi qui ai eu le prix. Et donc, mon livre a été édité donc en octobre 21.
D'accord.
Récemment, là, il y a 6 mois. Voilà. Donc, ce livre, c'est un peu un cheminement dans le frémissement de la vie. Je crois que c'est une poésie qui s'adresse plus au sens qu'à l'intellect, je dirais. Je ne veux pas tomber dans une opposition entre ces deux concepts, mais disons, je m'intéresse à l'éphémère, la fragilité qui nous entoure, l'éphémère et l'incertitude de la vie. Je crois que les textes explorent un peu l'indicible. Alors, la nature est présente dans ce livre, mais jamais dans une approche descriptive. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi le fait d'être dans un espace naturel, un espace qu'on imagine sauvage, nous ramène à nous-mêmes, à notre solitude, à nos interrogations, à nos questionnements, nos émotions. Voilà, c'est comme ça que j'écris. Et vivre ça, vivre des moments comme ça me paraît tout à fait important, car cela nous ressource et ce sont des moments où nous sortons du tumulte social, du tumulte de la vie matérielle, comme disait Duras, de la vie quotidienne avec ses contraintes, ses interrogations et parfois ses soucis aussi. Mmh. Voilà. Donc, disons que c'est la démarche générale d'écriture. Donc, il y a essentiellement, il y a trois parties où il y a des poèmes et une partie où il y a de la prose poétique. Mais je crois qu'on va un peu...
Voilà, alors on peut ajouter aussi qu'il y a des illustrations dans ce recueil.
Alors voilà, il y a des encres de Chine, il y a 5 encre de Chine, une sur la couverture et les autres qui annoncent chaque partie. Et ces encres ont été faites par Pierrette Guettet, une amie qui fait de très belles choses.
Mmh, oui. Voilà. Voilà. Eh bien, est-ce qu'on peut présenter alors la première partie qui a pour titre... Ah oui, on n'a pas dit... Est-ce que le titre du recueil, Dès lors l'immobile, tu peux nous en expliciter un peu le sens ?
Alors, c'est lié justement à la première partie, hein, puisque c'est un des vers de la première partie.
Oui. D'ailleurs, notre lecture va se terminer sur ce vers-là.
Dans cette première partie, les textes évoquent ce que l'on peut ressentir, et j'ai envie de dire ce que je peux ressentir. Mmh. Mais j'aime bien le « on », face à la mer. Cet état tout à fait particulier, je peux dire que les bords de mer me fascinent. Mmh. Et la lumière, le vent, bien sûr les vagues, voilà.
Et les falaises. Un peu comme Guilvic, hein. Guilvic aussi a beaucoup écrit sur la mer, hein, sur l'océan.
Oui, tout à fait. Et le mouvement des vagues qui nous ramène à l'immuable, à la notion d'éternité. Voilà. Et c'est vraiment un temps de suspension, comme je l'évoquais tout à l'heure, par rapport à la vie sociale. Ouais. Et voilà. Et lié, dès lors, l'immobile, c'est un des vers de cette partie, c'est-à-dire que face à la mer, tout s'arrête. En tout cas, le reste s'arrête.
Oui.
La vie sociale, la vie... il y a quelque chose... Pour moi, c'est un choc quand j'arrive face à l'océan, face à la mer sauvage, face à des falaises. Il y a une espèce de choc là, où... un état particulier que j'adore.
Mm-hmm. J'imagine, oui.
Voilà, et... voilà, ce vers a donné, est donc devenu le titre du livre.
Voilà, donc première partie, nous allons en lire un extrait assez important. Et cette première partie s'appelle « Là ».
D'abord, on ne dit rien.
On craint de décrypter les silences que l'on évite. Les regards qui obsèdent, les mots que l'on tait, que l'on enfouit sous un manteau d'artifice.
Figé.
Dans trop de prudence, dans des habits factices, dans une histoire éteinte où meurent les feux, où la source est tarie, où les rires n'ont plus cours. Impassible, insensible au frémissement du monde, intranquille. On ose savourer la valse de l'écume, des récifs sculptés par cette danse incessante.
Et puis, soudain, saisi par une soif d'exil, un désir de sursis, on respire.
On ferme les yeux au déchirement de la houle, à l'obstination des bourrasques, au harcèlement des brisants.
On cède. C'est là que tout vacille, comme une gifle. Peut-être est-ce là que tout commence. Là. Où les embruns sont caresses et les vagues luisantes. Là où le vent est hymne. Là où ciel et onde s'épousent. Nudité du roc, l'austère en ce lieu, déserté par le geste fébrile. Cette incessante fougue, cette troublante furie, cette étrange volupté où la parole s'estompe.
Les vagues se taisent, se retiennent parfois. Un peu de latence. Il faut bien que cesse la turbulence, que se suspendent nos besognes, que se trame cet écart nécessaire à l'énigme des choses. Sentir dans la main l'or de la poignée de sable. Caresser un galet bleuté, s'asseoir sur la roche froide et puis attendre. Dès lors, l'immobile. Vous avez peut-être reconnu cet extrait de La mère de Claude Debussy. Bon, je pense que, avec le texte que vous avez entendu avant, c'était une musique qui s'imposait. Maintenant, nous abordons la deuxième partie du recueil de Pierre de La Fontaine, une deuxième partie qui s'intitule « Le mystère adviendra ». Alors, de quel mystère s'agit-il, Pierre ?
Alors, dans cette partie, il y a un côté un peu rêverie du promeneur solitaire. C'est un cheminement dans la nature qui est très présente, l'ombre, la lumière. Mais l'humain est également présent. Par exemple, j'emploie les expressions « nos pensées »,« la parole ». Toujours dans cet état d'esprit où je m'intéresse à ce que peut interroger, modifier en nous le fait d'être dans un paysage. Voilà.
Bien, alors, allons-y pour un extrait de cette deuxième partie.
La fraîcheur encercle les propos. La lumière naissante ruisselle sur les visages, abolit la fatigue, ouvre une nouvelle saison, nous prend par la main, donne sa clé.
On voit passer, sans la moindre larme, les murmures de l'aube.
Les passerelles résistent malgré les secousses.
Au liseré de brume, le silence s'impose.
Un soleil prudent dissipe la brume, ravive notre musique intérieure, fait mûrir les grappes.
Feuilles éparses sur les sentiers, un vague souffle caresse nos silences.
Journée printanière, espérant le rire de l'oiseau, nous nous abandonnons aux fleurs déjà naissantes.
À portée de main, un nuage et l'ombre naissante convie à l'effacement.
Où murmure le tremble, la parole abdique.
Où murmure le tremble, la parole abdique.
Déserte est la rue. Même l'ombre reste discrète.
Quelques passerelles frêles dans le brouillard des heures qui rident, sans armure, sans voile. On marche. C'était un extrait d'une suite pour violoncelle d'un compositeur du début du XXe qui s'appelle Ernest Bloch, un compositeur suisse d'origine et qui a fini sa vie aux États-Unis. Alors, nous avons entendu tout à l'heure Gilvic, nous allons entendre maintenant quelques auteurs qui figurent au Panthéon de Pierre, à commencer par Christian Bobin.
Oui, Christian Bobin, donc cet écrivain actuel, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup publié, qui continue de publier, voilà. Et qui écrit beaucoup de prose poétique.
Alors justement, vous allez entendre un extrait, je vais vous dire un extrait, d'un recueil qui s'appelle « Éloge du rien ». Reste l'amour qui nous enlève de tout, sans nous sauver de rien. La solitude est en nous comme une lame profondément enfoncée dans les chairs. On ne pourrait nous l'enlever sans nous tuer aussitôt. L'amour ne révoque pas la solitude, il la parfait. Il lui ouvre tout l'espace pour brûler. L'amour n'est rien de plus que cette brûlure, comme au blanc d'une flamme. Une éclaircie dans le sang, une lumière dans le souffle, rien de plus. Et pourtant, il me semble que toute une vie serait légère, penchée sur ce rien, légère, limpide. L'amour n'assombrit pas ce qu'il aime, il ne l'assombrit pas parce qu'il ne cherche pas à le prendre. Il le touche sans le prendre. Il le laisse aller et venir. Il le regarde s'éloigner d'un pas si fin qu'on ne l'entend pas mourir. Éloge du peu, louange du faible. L'amour s'en vient, l'amour s'en va, toujours à son heure, jamais à la nôtre. Il demande pour venir tout le ciel, toute la terre, toute la langue. Il ne saurait tenir dans l'étroitesse d'un sens. Il ne saurait pas même se contenter d'un bonheur. L'amour est liberté. La liberté ne va pas avec le bonheur, elle va avec la joie. La joie est comme une échelle de lumière dans notre cœur. Elle mène à bien plus haut que nous, à bien plus haut qu'elle, là où plus rien n'est à saisir, sinon l'insaisissable. Alors, un second auteur maintenant qui s'appelle Kuntz.
Voilà, Rainer Kuntz. Donc, un écrivain allemand, un écrivain actuel, qui vivait donc dans l'ex-RDA. C'était d'ailleurs un écrivain dissident et que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors d'une lecture publique. Alors, je vais lire deux poèmes extraits de « Un jour sur cette terre ». Quand on dit RDA, on pense bien sûr à l'ex-mur de Berlin. Mmh. Le premier poème lui est consacré. Le mur. Lorsque nous l'avons rasé, nous n'avions pas idée comme il est haut en nous. Nous nous étions habitués à son horizon et au calme plat. Dans son ombre, personne ne jetait d'ombre. Maintenant, nous voilà dépouillés de toute excuse. Un deuxième texte que je trouve absolument magnifique. S'en tenir à la terre, ne pas jeter d'ombre sur d'autres, être dans l'ombre des autres, une clarté.
Oui, en effet, on parlait de concision tout à l'heure, celui-ci dit beaucoup en peu de mots. Alors, un troisième auteur, Pierre, que tu vas nous lire maintenant, et qui s'appelle Philippe Matty.
Philippe Matty, c'est un poète belge qui publie également beaucoup. Un texte qui évoque la musique. Ce n'est qu'une partition mêlée de désir, de joie, de tristesse éparpillée. La musique nous offre des chemins, des visages, des matins, comme s'ils sortaient d'un puits dont la margelle nous était invisible. C'est parfois si fort que toutes les vitres se brisent dans les maisons qui nous habitent. Le vent s'y engouffre, emporte avec lui le bleu du ciel, des parfums si puissants qu'on les dirait chargés de larmes.
Bien, merci. Alors, on va revenir peut-être à ton recueil et à l'écriture poétique en général. Tu nous en as déjà un petit peu parlé sur les thèmes qui, toi, t'intéressent. Mais est-ce que tu pourrais être plus précis peut-être sur ce qui déclenche l'écriture? Qu'est-ce qui fait qu'on écrit? Qu'est-ce qui fait aussi qu'on réécrit? Parce que j'imagine que le premier jet n'est pas forcément le bon. Et puis, à quel moment est-ce qu'on décide que voilà, le texte est là et on n'y touche plus?
Ce que je peux dire d'abord, c'est qu'évidemment, l'écriture, c'est d'abord un travail. On n'est pas là à attendre une inspiration qui viendrait de...
Qui tomberait du ciel.
Voilà. Et c'est l'expérience du tâtonnement. Mon écriture, je crois, puise sa source dans ce qui nous entoure, dans ce que j'observe, dans la quotidienneté. Et j'aime une écriture dépouillée, sobre. Il y a plusieurs textes qui sont des textes parfois courts. Bon, parfois, j'en écris des plus longs, notamment quand j'écris de la prose poétique. Je peux dire que dans mon écriture, je cherche le mot juste et parfois, c'est difficile. Et alors, quand est-ce qu'un texte est abouti pour moi? C'est, j'allais dire, une évidence quand on sent qu'il n'y a rien à ajouter.
Que tout a été retranché.
Voilà, en fait, hein. Que j'ai réussi à... Enfin, je considère que j'ai réussi à faire entendre ce que je voulais dire en peu de mots. Mais en fait, souvent, j'élague. Hein, j'enregistre sur l'ordinateur, je laisse reposer, et voilà. Je pense beaucoup à une phrase de Charles Juliette, que j'avais rencontré plusieurs fois, et ce grand poète, et il avait dit une phrase lors d'une rencontre à l'UFM de Lyon. C'est une phrase qui m'a vraiment marqué. Il avait dit: ce qui est difficile, ce n'est pas d'écrire ce que l'on veut dire, c'est de n'écrire que ce que l'on veut dire. Mmh. Et ce ne que me paraît, ça me parle beaucoup quand j'écris. Je sais que j'aime beaucoup les adjectifs, j'aime beaucoup la langue française évidemment, et j'aime bien le « on », le vrai « on » indéfini. Pas le « on » qui de l'oral qui remplace le « nous », le vrai « on » indéfini.
D'accord.
Voilà.
Alors tu parlais de l'inspiration du quotidien, et je crois qu'il y a un texte en particulier qui t'est venu... d'un fait de ton quotidien, enfin un fait que tu as vécu,
oui.
et tu en as fait un poème. Alors peut-être ce serait intéressant d'entendre ce texte-là et puis de savoir aussi ce qui l'a déclenché.
Oui. Dans le Jura, un jour, je vois où je vais assez souvent, et je vois une maison. Donc, c'est une maison abandonnée. Un monsieur qui est décédé, mais il n'y a pas très longtemps. Je regarde à travers la vitre et rien n'a bougé. C'est-à-dire, il y a la table, il y a sa veste, la table est mise. Et ça m'a beaucoup troublé. Ce monsieur, je le connaissais. Et finalement, on a l'impression qu'il est là, mais il n'est pas là, quand même. On est partagé entre... Est-ce que cette scène nous dit... la mort, la solitude ou la présence, elle dit tout cela en même temps. Et j'ai senti qu'il y avait un texte qui était en train de se déclencher.
Alors, on l'écoute.
Un béret, une veste sur la chaise, une carafe de vin sur la table. Dans chaque grain de poussière, l'absence déploie son arrogance.
Mm-hmm.
Mathias Goerne, quelle voix! Dans le dernier lied du Voyage d'hiver de Franz Schubert, ça s'appelle Der Lyreman, c'est le joueur de vielle. Troisième partie du recueil de Pierre de La Fontaine, qui s'intitule L'épaisseur du monde.
Donc dans cette partie, il y a toujours une présence humaine, qui peut être un visage, un homme, un vieillard, un tu, dans la vie quotidienne.
Voilà, alors je vous lis un extrait de cette troisième partie. Sur ton visage se mire l'éclat de l'aube suintante et l'ombre accompagne tes pas. Là, tu es ancré dans cet espace, dans ces lieux familiers. Là, tu es pleurant, riant, accueillant le désordre. Là, tu es, entre beauté et grâce. À la caresse du soir, tu t'abandonnes. L'horizon déchiré. Survivre au tumulte. Dans ton refuge, est-il silence qui te relie ? Est-il espoir qui veille ? Ton visage accueille la limpidité du jour. Tes paroles avant l'aube repoussent l'effroi. Tu sondes l'horizon, ce que disent les paupières du jour. Elle a choisi d'être là, dans ce dépouillement, dans la nudité de son silence. Elle, ouverte au monde. Tu es heureuse, loin de tout ? Il n'y a rien ici. Rien ? Effectivement, c'est juste ce qu'elle veut. Rien ? C'est-à-dire l'essentiel. La clarté aurorale. L'ocre des feuilles, le rouge des vignes, loin des trépidations qui creusent les visages, des labeurs qui éreintent. L'embrasure de la fenêtre, elle l'orne de quelques roses, les dernières, ou de capucines qui illuminent la pièce sombre, revivifie le terne du papier peint. C'est sa façon à elle de rendre la vie plus légère. De se soustraire à l'insignifiance, c'est sa façon d'aimer. Son chant a la couleur et la respiration d'un soir d'avril. Ce qu'elle veut, c'est simplement vivre. Vivre en suspension, sans craindre l'austère. Les banderilles du temps, vivre en conviant à sa table la grâce du funambule. Vivre, s'émerveiller. Dans ses yeux, l'éclair dit la promesse. Elle enrobe de miel l'étoffe des jours ternes. Elle chemine dans la froideur qui a meurtri les premiers bourgeons. Elle rend visite aux arbres en deuil. La nuit, elle marche dans des flaques d'étoiles. Elle a rendez-vous avec la beauté. Cette année encore, dit-elle, la treille donnera du raisin. Et la douceur s'attise. Elle passe maintes fois devant le piano. En effleure les touches et puis elle joue une suite de Handel, une invention de Bach. Ses mélodies s'envolent au cœur des collines verdoyantes et se mêlent au chant de l'oiseau. Alors, la nuit peut tomber. Parfois, elle griffonne quelques mots sur un petit carnet noir. Elle écrit à la plume, toujours. Plume d'une parole étreinte, d'une voix distanciée, d'un désir à vif, d'un souffle détaché. Plume témoin de l'émiettement des souvenirs, de la mémoire froissée, des lambeaux de songe, des bruissements de vie. Elle sait qu'on n'écrit point pour sauver le monde. Le monde est trop dur et les mots sont trop frêles. Son verbe est une fragile passerelle dans l'ordinaire familier, ce joyau si précieux. Elle écrit ce mélange de douceur et de mélancolie, les vestiges de l'enfance, les visages familiers, le parfum des étreintes. Elle écrit pour déjouer l'absence, vaincre les chimères, le trop-plein de présent, traquer les rires acerbes, les pas indolents, les silhouettes fléchies, les regards aveugles, les corps prisonniers de leur carapace. Un mot nu, un mot sauvage, un mot rire, un mot mutin, un mot nomade, un mot ivresse, un mot cri. Elle écrit, tel un murmure, tel un chant balbutié dans une nuit de novembre. Voilà, c'était donc un extrait de la quatrième partie du recueil de Pierre de La Fontaine. C'est sa façon d'aimer, avec un arrière-fond musical qui était une pièce de John Cage qui s'appelle « In a Landscape », dans un paysage. Voilà, alors quelques mots sur cette dernière partie, Pierre.
Alors, cette dernière partie est écrite en prose poétique. Donc, comme on l'a entendu, il y a la présence de ce « elle », cette femme énigmatique. Tous les textes s'articulent autour de ce « elle » retiré du tumulte du monde, qui s'abandonne à la clarté, au silence, à la solitude, à la simplicité, qui est dans une posture d'assaise. Voilà.
Bien. Alors... nous avons encore un petit peu de temps pour entendre cette fois un texte inédit
oui.
que tu m'as confié
voilà.
et que je vais lire. Donc, c'est un soir sans faux semblant, un soir nomade où l'on effleure l'ineffable. Des paroles flottent dans l'air, on cherche son chemin. Les craintes se délitent. À l'orée des déchirures, un feu veille. Mais on ne le voit pas, pas tout de suite. On regarde autour de soi, il n'y a personne. Pourtant, quelque chose d'étrange perce, qui relève de l'absence, de la mémoire vive, de l'enfance envolée, de la renaissance, de l'adieu peut-être. Quelque chose qui se devine dans l'air tiède. On sent la profondeur de l'instant nu, une douce tristesse qui se dépose sur les ailes du soir. On attend l'appel de l'aurore, qu'elle prenne la main, qu'elle délivre de l'enclos de la nuit, qu'elle conduise où la vie serpente. Les certitudes se lézardent et défilent alors les jours de notre vie, tous les jours de marbre froid et les jours d'habits de fête. La vie courante avec ses heures, ses rendez-vous manqués, ses défaites et ses vertiges, ses bruissements inattendus. La vie qui s'embrase, dérive, déstabilise. La vie mouvante, imprédictible, éclair d'or dans une nuit d'été. Ombre fragile qui s'allonge, porte ouverte sur l'impromptu, gracie l'écuyère qui défie l'ennui insaisissable, diablesse qui s'éloigne. Et revient, qui ne trouve sens que dans cet être-là, cette confrontation au tumulte du monde, à l'inachèvement des rêves, à ce qui peuple l'étrangeté de nos jours. La fatigue qui dépose son voile éclôt les visages, l'étoffe étincelante dont se vêt le creuset du jour. L'élégance des gestes qui balisent la cadence du temps, les larmes qui cèdent quand accostent une jubilation soudaine à l'heure du crépuscule. Une traversée aventureuse dans la densité d'une vie indomptable, aux rivages incertains. Une vie qui échappe quelque peu, dont on voudrait pouvoir retenir la folle chevauchée, qui paraît si frêle. Une compagne lointaine et familière, dont on étreint les mains tremblantes et fiévreuses, mais que l'on laisse parfois se fondre dans la monotonie rampante, se perdre sous la robe des regrets, le renoncement qui dépouille, la distance qui délie. On ne répare pas les jours éteints, on ne perd jamais tout à fait les jours lumineux. On garde dans une boîte des petits riens qui sont le cœur même de notre histoire. Un jour, on soulève le couvercle. Des volutes de fumée bleue s'échappent et déposent des images sur l'ordinaire environnant. Un enfant rit en grimpant sur un arbre. Une femme l'appelle, le raisonne, exige, mais il ne répond pas et monte encore plus haut. L'indocilité a gagné. La danse folle de l'insouciance peut commencer. Le rideau peut s'ouvrir. Alors, se taire, écouter, regarder ce qui émane des voix tues, de la poussière de l'indicible, ce qui se terre dans la limaille de l'apparente immobilité. Faire un pas de côté, s'éloigner des oripeaux du présent, se délivrer des fantômes qui freinent l'immersion dans le manteau scintillant de la vie pleine, attendre que le voile se lève, emprunter un chemin labyrinthe à la lisière de la solitude qui s'invite. On s'abreuve de cet instant, on veut le sauver de l'oubli, le rendre éternel, même si on sait la tâche illusoire. Un instant où tout s'achève, mais rien ne meurt. Un instant de réconciliation avec une quotidienneté insouciante, une histoire que l'on croyait l'être morte. Un instant d'insoumission à ce qui freine l'emballement du manège, à ce qui tue ce jeu d'ivresse, installe des déserts fades, rend la vie exsangue, met la fougue en deuil. Escale sur les crêtes de l'espoir qui mouille l'encre sur les prémices d'un jour pétulant. Voilà, c'est là-dessus que nous allons bientôt clore cette émission. Et quels sont, Pierre, tes projets à la fois d'écriture et de spectacle, puisque tu donnes aussi tes textes en spectacle?
Alors, au niveau écriture, j'ai envoyé plusieurs nouveaux manuscrits à des éditeurs. Donc, je vais attendre des réponses qui souvent viennent au bout de plusieurs mois. Autrement, effectivement, on a mis en place une lecture poétique du livre, dès lors l'immobile, et d'autres textes inédits avec Éric Simonet. On a déjà présenté à Oyonnax et à Césaria cette lecture. Et donc, il y a le texte et il y a un accompagnement au piano que j'assure, et on espère le refaire à l'automne ou cet hiver.
Dans d'autres lieux.
Voilà, dans d'autres lieux, voilà.
Avis aux amateurs.
Voilà.
Et vous produisez aussi chez les gens ou c'est uniquement...
Ah, volontiers, ouais. Oui, c'est sans problème. Et on a un autre, alors on a un autre spectacle. J'ai un autre spectacle, mais là c'est tout à fait autre chose, avec Christine Martin, qui s'appelle La peau d'Elisa, de Carole Fréchette, qu'on a présenté déjà à Châtillon, sur Chalaronne, qu'on a présenté dans l'Isère, et normalement on devrait le présenter sur Bourg. Là, c'est un texte qui est dit par Christine Martin et que j'accompagne au piano.
D'accord.
Et avec Christine Martin, donc, on a aussi le projet, on va se mettre au travail pour travailler, on a le projet d'un autre texte, d'un autre livre, qui s'appelle « La plus précieuse des marchandises » de Jean-Claude Cronberg. Mais là, il faut que nous travaillions.
Donc, beaucoup de projets, beaucoup de spectacles et d'écritures en perspective. Eh bien, écoute, merci à toi, Pierre, pour cette heure d'émission passée en ta compagnie. Très agréable.
Merci à toi, Christine, et merci à Radio B de m'inviter, de m'accueillir.
Voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission au jeudi 16 juin. Même heure, même endroit. À bientôt. ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.